Vous écoutez RTL.
Maison, jardin, cuisine, brocante.
Avec Bernard Poiret sur RTL.
9h40.
Maison, jardin, cuisine, brocante, ils vont parler dans un instant. Qui sont-ils? Ils sont Thierry, Sébastien, Laetitia et Églantine. Mes amis, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Bernard.
Bonjour tout le monde.
Thierry, Denis, quoi de plus familier finalement que le persil qui fait le bonheur des gourmets, sauf qu'il y en a 218 sortes.
Alors, il fait le bonheur de tout le monde depuis très longtemps. Bon, c'est un cousin de la carotte sauvage qui était déjà hyper réputé il y a 5000 ans en Sardaigne. Les anciens Grecs en donnaient surtout à manger à leurs chevaux, comme stimulant. Et ils en couronnaient aussi leurs athlètes. Mais bon, pour dire vrai, ils en avaient un petit peu peur, et souvent, ils l'associaient à la mort. Peut-être parce que le persil ressemble à la ciguë, poison sinistre, de sinistre mémoire à Athènes.
Attendez, j'ai une question hyper importante. Ouais. On dit persil ou persil?
Je crois que les deux se disent.
C'était des cuisiniers, les Romains.
Oui, et ils étaient franchement plus festifs. Ils adoraient le persil. Rien ne vaut un bouquet de persil en bouche pour masquer les odeurs de vin le lendemain d'une orgie. Et puis ça fait passer les remugles d'ail. Bon, toute la Méditerranée a été conquise par le persil.
Attendez, vous nous parlez de persil plat ou de persil frisé?
Les deux. Pas le même goût. Les deux, car ils étaient tous les deux appréciés depuis l'Antiquité. Le grand agronome romain Columelle l'atteste. Alors, je sais, Sébastien, que vous préférez le persil plat, mais moi, j'ai un faible pour le frisé. Déjà, ses feuilles résistent mieux au froid.
Ça, c'est vrai.
Et on en cultive depuis longtemps en France?
Au moins depuis le 9e siècle, sous Louis le Pieux, fils de Charlemagne. Le persil était réputé chez les bons moines de l'époque, tant pour la cuisine que pour la médecine.
Ah, il soigne quoi alors?
Alors, le poumon, le foie, la rate, les reins, mieux. Ses feuilles répandues sur l'eau des étangs réjouissaient les poissons malades.
Ça pouvait soigner les poissons malades.
À l'époque.
Comment le cultivez-vous?
Alors, je fais deux semis par an. Dehors, directement en terre, dans un sillon. Celui du printemps me donne du persil maintenant, en été. Et celui que je fais début juillet sera top fin septembre.
D'accord. Et on dit que le persil, ça gemme pas vite.
Oui, ça c'est vrai. Puis c'est très agaçant. Il faut parfois plus d'un mois.
Oula.
Alors, pour gagner du temps, vous pouvez attendrir les graines. On les trempe dans l'eau 24 heures. Ou alors, on peut les frotter avec un petit papier de verre.
Oh bah non, mais c'est pas facile.
Le but, c'est que l'eau pénètre plus vite dans la graine, qui bien sûr germera plus vite. Une fois semées, les graines ont besoin d'une humidité régulière. Un voile de forçage posé sur le sol, voire un vieux cajot de fruits en latte de bois retourné comme un toit, ça gardera la fraîcheur jusqu'à la levée.
Une bonne astuce qui coûte pas un rond en plus, ça c'est top. Sébastien Demorand, vous avez quasiment les larmes aux yeux parce que la saison du barbecue est de retour. C'est maintenant que votre vraie vie commence et elle s'arrêtera d'ailleurs à la fin du mois d'août. Et Dieu sait que tel un homme des cavernes, vous aimez griller vos protéines sur une belle flamme vive.
Oui, alors restez calme Bernard quand même, attention à la belle flamme parce que c'est celle qui vous crame vos merguez en moins de temps qu'il ne faut pour siffler un bon petit verre de rosé. On peut avoir, si vous me passez l'expression, cher monsieur Poiret, une approche un peu moins néandertalienne de la cuisson. Et pour rappeler, tiens, le petit verre de rosé qu'on a à la main, on va préparer une viande qui sert un tout petit peu rosée justement. On va faire du veau, si vous voulez. Absolument, bien vu Bernard. Il faut quand même un vin qui a un tout petit peu de matière parce que le tendron de veau, c'est, vous le savez, une viande qui est quand même un petit peu grassouillette. Et qui va mariner en plus avec 2-3 petites bricoles de caractère, un petit peu d'épices. Donc, ce qu'il nous faut, c'est compter à peu près 2-3 tendrons par personne. Ça peut vous sembler beaucoup,
mais c'est énorme.
Mais tranches de tendrons, on va dire qu'il n'y a pas 2 kilos de viande.
Moi, j'en mange un morceau, ça me suffit.
Mais regardez,
le tendron, c'est bien parce que c'est pas cher.
Oui, c'est
alors,
exact.
Comment on fait?
4 personnes, mettons le barbecue, vous faites 4 oranges. Du jus d'orange. On commence
avec ça. On va mariner dans du jus d'orange.
Absolument. Vous allez voir, on ferait mariner au citron, pourquoi pas au jus d'orange, pourquoi pas au pamplemousse. Miel de romarin, si vous en avez.
Miel d'acacia, ça irait.
À défaut, évidemment, Thierry. Ensuite, un gros pouce de gingembre que vous allez peler, hacher menu. De la sauce de soja, généreusement, pour saler.
Il va y avoir du piment.
Évidemment, un peu de piment d'Espelette. 2-3 gousses d'ail rose écrasées qui vont parfumer comme ça légèrement. Un petit peu de cardamome en poudre et quelques brins de romarin. Pas grand-chose, 2-3. Vous les intercalez comme ça entre les morceaux de tendrons et vous laissez reposer au frais ou à température ambiante comme vous voulez. Bon, on va dire quoi, 2 heures à tout casser.
Et après, je sens que ça va chauffer.
Alors ça va chauffer un petit peu, Thierry, effectivement. Mais n'oubliez pas, pas une braise surpuissante. On va pas brûler la viande à l'extérieur.
Pas de flamme.
Voilà, sans la cuire convenablement à l'intérieur. N'oubliez pas de retourner évidemment vos tendrons très souvent sur la grille. Et surtout, vous les arrosez au pinceau de leur marinade pendant la cuisson, parce que c'est le miel justement qui va venir caraméliser la surface des tendrons.
Moi,
et s'il fait moche, vous mettez le four avec un bon grill, ça fait quoi, 15 minutes de cuisson. Oui. Au barbecue, ça prend 10 minutes à tout casser.
Moi, je vais faire ça. Allez, ça ce soir.
On fait ça ce soir. Allez, une petite garniture avec, toujours clin d'œil au rosé, Thierry. Et en plus, cette saison, une salade de tomates rose de Berne.
Des roses de Berne, bien sûr. Voilà, juste encore un mot, bien évidemment, du vrai charbon de bois. Les barbecues à gaz et tout.
J'aime pas
du vrai charbon de bois.
Oui, mais c'est plus facile à nettoyer.
Oui, ça, je sais bien, mais ça n'a pas le même goût.
Voir des sarments, les amis.
Ah, bah, les sarments de vigne, c'est formidable. La suite de Maison Jardin Cuisine Brocante, dans un court instant. Laetitia va enfoncer des portes anciennes. Quant à Églantine, elle s'intéresse au rotin, ma foi. Il y en a plein, les brocantes. Enfin, plein, non.
C'est vrai.
Pas plein, mais enfin on en trouve de temps en temps.
Et on est content quand on en trouve.
Parfois ça vaut le coup, oui, c'est vrai. A tout de suite.
Vous écoutez RTL.
La suite de Maison Jardin Cuisine Brocante, Laetitia Nallet. Avec vous, partons à Bordeaux. C'est toujours une bonne idée d'aller à Bordeaux,
qui est devenue
une ville absolument sublime.
Ouais.
Admirez de très belles portes d'immeubles et de maisons. C'est vrai que certaines sont extraordinaires.
Est-ce que vous savez pourquoi on les trouve belles, ces portes?
Parce
qu'elles ont été pensées pour aller avec la maison. Ouais. Autrefois, les architectes dessinaient la maison et aussi la porte d'entrée. C'était un tout, il y avait donc une cohérence qu'il faut absolument préserver.
Mais pourquoi Bordeaux, alors que par exemple, dans la vieille ville de Montpellier, il y a des portes extraordinaire également.
Alors, parce qu'à Bordeaux, il y a deux artisans ébénistes, amoureux des vieilles portes en bois, qui ont entrepris de les sauver. Et aujourd'hui, grâce à eux, figurez-vous qu'il est moins cher de restaurer que d'acheter une porte neuve. Alors, quels sont les défauts d'une vieille porte pour vous?
Elle ne ferme pas.
Exactement.
Elle laisse passer l'air.
Elle est voilée.
Exact.
Elle est écaillée.
Alors du coup, Jean-Paul Carreau et Laurent Bolzer débarquent chez vous avec leur camion atelier. Ils enlèvent la porte et la réparent sur place.
Ah, dans la journée.
Chez vous.
Ils vous la remontent et si c'est pour deux jours, vous n'êtes pas à l'air libre.
Effectivement, s'il fallait emporter la porte et la retrouver 15 jours plus tard, ça serait mission impossible. Eux, ils font ça en une journée devant votre porte.
En pratique, vos artisans, qu'est-ce qu'ils arrivent à faire?
D'abord, ils s'attachent à ce qu'elles fonctionnent bien. Les vieilles portes se sont souvent affaissées au fil des années. Mm-hmm. Donc, ils vont la rééquilibrer, la rendre à nouveau fluide et fonctionnelle. Puis après, ils vont refaire une étanchéité pour l'isoler du froid, de l'air.
Ils les sécurisent, parce que maintenant, il faut des portes.
Ils la sécurisent avec des serrures multipoints. Évidemment, ils réparent les trappes pour le passage des lettres, les judas, les vitrages. Refaire aussi les habillages détérioré, enfin c'est tout un travail.
C'est vachement bien. Et ça fonctionne quel que soit l'état de la porte.
Alors Jean-Paul et Laurent l'affirment, dans 98% des cas, il n'est pas nécessaire de remplacer les portes. La majorité des portes anciennes sont en pichepin gemé, auquel on enlevait sa résine, ce qui en faisait un bois sec et résistant. Mmh. Alors franchement, pour éviter qu'elles ne partent à la déchetterie,
ne pas
abîmer le patrimoine architectural, faites appel à eux et puis bannissez les portes qu'on trouve dans le commerce, là, qui sont sans caractère.
Mais d'ailleurs, il me semble que dans les quartiers protégés ou classés, on ne peut pas mettre n'importe quelle porte.
Bien sûr, c'est comme ça qu'ils ont commencé à travailler. Mmh.
Ouais. Est-ce qu'ils peuvent transformer des vieilles portes qui ont été dénaturées au fil des années, qu'on a un peu changées?
Alors, ce qu'ils font de génial, c'est qu'ils rhabillent, par exemple, les portes des années 70. Là, je vous ai apporté une photo, pas toujours très heureuse. Ils arrivent à les métamorphoser et leur donner le lustre et les moulures de 1900.
C'est
spectaculaire. La porte, c'est quand même la première chose que l'on voit en arrivant. Mmh. Une porte moche, ça ruine votre maison.
Attendez, ça, c'est avant-après?
Avant-après, regardez.
C'est exceptionnel.
C'est plus les mêmes portes.
Et ça vaut combien cette petite rénovation là quand même?
C'est vraiment moins cher que d'acheter une nouvelle porte.
Oui.
Il faut savoir que ce sont des portes d'exception au départ.
Donc acheter une nouvelle porte d'exception.
Prix moyen 1 850 €, mais ça peut être beaucoup beaucoup moins cher.
Ah, c'est moins cher qu'une porte neuve.
Ça dépend de l'état. Ça dépend de l'état de vos portes.
Avoir une porte neuve ancienne, c'est rien.
Ouais, non, c'est rien du tout. Ça s'appelle Rénoportes à Bordeaux. Ils sont aussi sur la côte basque. Ils vont se développer dans d'autres villes. Moi, je peux vous dire que je les attends impatiemment à Paris.
Moi aussi, parce que là, dans mon immeuble, il faut refaire la porte d'entrée.
Il y a du boulot.
Alors, allez voir sur leur site internet. Vous aurez toutes leurs coordonnées.
Rénoportes en un seul mot. Rénoportes. Églantine Émeillet, vous voulez nous parler de rotin et de 7e art, je comprends rien.
Ah, c'est
à part Emmanuel.
Avant
que vous commenciez, je me dois de vous rappeler que cette émission est destinée à tout public, même les enfants.
Mais
moins de 18
là. C'est le rotin, puisque ça reste toujours associé dans l'esprit de tout le monde à Emmanuel. Alors c'est vrai qu'on va parler du célèbre fauteuil d'Emmanuel, qui aujourd'hui encore, près de 45 ans après la diffusion du film érotique au même nom, symbolise toujours féminité, sensualité.
C'est vrai.
Il faut savoir que ce film de Just Jekin avec Sylvia Christel à demi-nue sur le fauteuil apportera au rotin son heure de gloire.
Une jolie petite pirouette. tête.
Ah, et je poursuis.
Enfin, moi, je préférais la fille au
rotin.
Elle était magnifique.
Elle était magnifique. Cinéma et Rotin, il en est question à la Galerie Vauclair à Paris, qui organise jusqu'au 15 juillet l'exposition Rotin, décor de star.
Ah, je comprends mieux pourquoi vous teniez à nous en parler ce matin.
C'est pointu.
Alors, c'est quoi
ah, en fait, la galerie est formidable. C'est une véritable référence dans la vente de céramiques, des céramiques absolument magnifiques, et aussi de mobilier en rotin de la seconde moitié du 19e siècle. Ça fait de nombreuses années que cette galerie collabore avec de célèbres réalisateurs qui trouvent chez elle une mine de trésors pour leurs films d'époque. Et bien cette fois, la galerie a décidé de nous offrir une magnifique rétrospective sur cette collaboration entre rotin et cinéma.
C'est dingue son truc.
Alors, quel
film par exemple ?
Il y a eu plein de films qui ont utilisé de beaux ensembles en rotin dans lesquels évoluent les personnages. Je peux vous parler de Coco avant Chanel, d'Anne Fontaine avec Audrey Tautou, Moulin Rouge de Baz Luhrmann avec Nicole Kidman. Ouais. Le rotin peut aussi être très masculin avec Alain Delon dans La Piscine. Drôle comme Louis de Funès dans La Lisanie, dandy comme Pierre Ninet dans Yves Saint Laurent.
On va tout regarder.
Pourquoi c'est le grand retour du rotin maintenant ?
Bah, en fait, le premier succès du rotin déjà coïncide avec une période très faste. On est entre la fin du 19e et le début du 20e D'accord. siècle. C'est la naissance d'une nouvelle classe bourgeoise qui D'accord. découvre l'exotisme, qui a envie de s'emparer de ce mobilier. C'est l'exotisme. Ouais. On s'empare de ce mobilier décoratif, léger, qui vient de Chine et d'Indochine. Mm-hmm. C'est aussi l'époque des progrès sociaux, de l'innovation et puis des plaisirs. Et c'est peut-être par nostalgie de cette époque qu'on aime encore le rotin d'aujourd'hui. Mm. C'est vrai qu'on en trouve sur les brocantes. C'est vrai qu'on en demande tellement qu'on en trouve un peu moins en ce moment.
Dites rotin et osier, c'est pas le même monde. Hein.
Non, alors on confond souvent et c'est très différent. Le rotin est très proche du palmier. Il fait partie des bois les plus résistants et ses lianes peuvent atteindre 200 mètres de long. Alors que l'osier, c'est pas un matériau. C'est une technique ancienne utilisée pour fabriquer des objets tressés à partir de saules, de bambou ou de paille. Rien à voir.
Ok. D'accord.
Donc en tout cas, n'oubliez pas, cette exposition, c'est très sympa. Rotin, décor de star, c'est jusqu'au 15 juillet, Galerie Vauclair à Paris 7e. Je mets les adresses.
15 juillet, il faut se dépêcher. Mais il ne reste plus qu'une semaine. Merci beaucoup, mes amis. À demain.
À demain, Bernard.
À demain.